clef la voix.
La clef la voix.
Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description, ainsi que le lien pour 3 exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir. Ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Coppolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. La voix est l'outil relationnel social par excellence. Comme nous l'explique si bien Johanna Révis, qui est vocologiste, directrice pédagogique du Centre de formation en orthophonie de Marseille, maître de conférences à la Faculté de médecine d'Aix-Marseille, présidente de l'Association de formation et de recherche en orthophonie-phoniatrie, relectrice experte pour la revue internationale Journal of Voice et chercheuse en linguistique au laboratoire Parole et Langage. Durant cet épisode, disponible en vidéo et en podcast, nous parlons de ses recherches sur l'imitation vocale réalisées avec Laurent Gérard, ainsi que de son envie de transmettre au plus grand nombre, car avec la voix, nous avons accès à d'innombrables informations, telles que le genre, l'âge, les origines, l'état de santé, la personnalité et surtout les émotions. Je vous invite à plonger avec nous dans l'univers intime de la voix. Bonjour Johanna.
Bonjour Clémentine.
Alors je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast.
Mais le plaisir est partagé.
Je voulais vous demander quel est votre premier souvenir marquant en lien avec la voix.
J'en ai plein qui sont tous extrêmement liés à ma mère en fait. Ma mère a toujours chanté du matin au soir, du soir au matin et les seuls moments où elle ne chante pas c'est quand elle parle en vérité. Donc la voix a toujours eu une place très importante dès mon enfance, dès mon plus jeune âge. Elle aimait beaucoup... nous raconter des histoires en prenant la voix des personnages, elle inventait des histoires. Et finalement, pour moi, la voix a toujours été un terrain de jeu immense et fascinant.
C'est ce qui vous a donné envie donc de devenir d'abord orthophoniste.
Oui, la plupart des orthophonistes viennent à ce métier par intérêt pour le travail avec les enfants, avec le langage. Moi, je suis rentrée directement par la porte de la voix. Voilà, je pressentais que mon épanouissement professionnel s'organiserait autour d'un travail sur la voix. J'avais malheureusement pas le talent de faire du chant une profession.
Vous avez pris des cours de chant ?
Jamais, non. Mais j'ai une grande carrière de chanteuse de salle de bain derrière moi, comme on est très nombreux d'ailleurs à la voix. Et donc finalement, ça s'est davantage organisé dans l'axe du soin. Voilà. Et donc effectivement, aujourd'hui, la voix est au centre de mon monde. Du point de vue thérapeutique et aussi du point de vue de l'enseignement, puisque je travaille aussi à la faculté de médecine de Marseille où je fais les enseignements de voix pour les étudiants en orthophonie.
Quel rapport entretenez-vous avec votre voix ?
Oh, j'ai un rapport assez serein avec ma voix. J'ai, comme tout le monde, mis du temps à l'apprécier, à l'accepter. Et je crois que le travail que je fais avec mes patients m'a beaucoup aidée à l'apprivoiser, dans le sens où j'enregistre tout le temps mes patients pour avoir un feedback, pour qu'ils entendent leurs exercices, pour qu'ils voient les améliorations. Et finalement, ma voix est toujours sur ces enregistrements aussi. Et donc, à force de l'entendre, j'ai fini par lui trouver des qualités d'expressivité, essentiellement. Je crois que c'est ce que j'aime le plus dans ma voix, c'est son expressivité.
Et je voulais vous demander, qu'avez-vous appris sur la voix, la vôtre et celle des autres au fil du temps ?
Ça va vous paraître très présomptueux, ce que je vais vous dire, et en même temps, c'est tout à fait sincère. C'est-à-dire, je pense que je sais la voix. Je dis pas que je sais optimiser ma propre voix de la meilleure manière possible, et je crois que pour ça, le travail est jamais fini. Je crois que pour sa voix, et par rapport à la voix des autres aussi, il y a toujours quelque chose à gratter. Je crois que les meilleurs chanteurs du monde continuent à prendre des cours de chant, à s'entraîner, à rechercher des choses. Mais par contre, je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça marche, j'ai l'intuition chez l'autre de voir comment il s'en sert, comment on pourrait modifier des choses pour que ce soit plus facile, moins fatigant ou plus performant. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus précis que ça. C'est très holistique ma réponse, mais voilà, je crois que la voix, je sais ce que c'est.
Dans votre livre « La voix et soi, ce que notre voix dit de nous », vous abordez différentes thématiques dont l'imitation. Moi, j'ai assisté à l'une de vos conférences sur ce sujet, c'était passionnant. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ?
Oui, le travail sur l'imitation, c'est arrivé à la fin de ma thèse d'université. Donc, moi, je suis orthophoniste, j'ai donc fait mes études d'orthophonie qui duraient 4 ans à l'époque. Puis, j'ai été diplômée très jeune, j'avais 21 ans, j'ai eu envie de poursuivre mes réflexions autour de la voix et donc j'ai enchaîné avec un DEA, maintenant ça s'appelle les masters, à l'époque c'était un DEA, ça me rajeunit pas. Puis sur un doctorat d'université, et mon doctorat à l'université, bien sûr, c'était autour de la perception de la voix, et plus exactement des indices qui nous font entendre, comprendre, intégrer le fait qu'une voix n'est pas normale, qu'une voix est cassée, qu'elle fonctionne pas bien. Et donc ça a été de longues années de travail pour moi, de recherche expérimentale. Et quand je suis arrivée au bout de ma thèse, je n'en pouvais plus de cette thématique. Comme beaucoup de chercheurs, à la fin de leur doctorat, ils ont envie de s'orienter un petit peu différemment. Et donc, après avoir travaillé tellement sur la voix pathologique, j'ai eu envie de comprendre la voix normale, la voix euphonique, la voix de tout le monde. Et ce qui m'a intéressée à ce moment-là, c'était d'essayer de comprendre quels sont les indices qui font que on va pouvoir se faire une image de l'individu auquel on est en train de parler à la seule écoute de sa voix. Donc, qu'est-ce qui véhicule l'identité des gens à travers leur voix ? Alors, j'ai commencé à réfléchir à cette question-là, à faire une recherche bibliographique, et puis à un moment donné, il m'est apparu comme une évidence que ceux qui ont tout compris sur l'identité véhiculée par la voix, bah, c'est les imitateurs.
Qui ont une oreille prosodique absolue.
Oui, alors qui ont beaucoup de qualités, effectivement. Une oreille prosodique absolue, c'est un peu mon invention. Je sais pas si c'est un terme.
Non, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très parlant de comparer à l'oreille absolue des musiciens.
Et oui, parce qu'effectivement, on peut pas imaginer que quiconque soit capable de reproduire quelque chose qu'il n'aurait pas perçu. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on a démontré expérimentalement en travaillant donc. Dans les recherches qu'on a faites avec Laurent Gérard, on lui a donné des enregistrements sonores à écouter avec des petites variations extrêmement fines et extrêmement précises entre ces enregistrements sonores-là. Et on a montré qu'il était capable de percevoir ces différences-là, non seulement de manière beaucoup plus pertinente, mais aussi de manière beaucoup plus rapide que le commun des mortels. Voilà. Et donc, de là, on en a déduit qu'effectivement, ce qu'il entend de différent dans une voix d'une personne à une autre, lui est capable d'en faire du sens et suffisamment pour retranscrire ça. Là où nous, on va se dire effectivement, un tel n'a pas la même voix qu'un tel, mais sans savoir précisément pourquoi finalement.
Oui, vous disiez dans votre livre, il attrape les voix comme on attrape des rhumes.
Oui, c'est ça. Bah, j'avais été très frappée la première fois que je l'ai rencontré dans le bureau de Jean Habitbol, qui est le médecin phoniatre qui le suit. Évidemment, tous les grands techniciens de la voix sont suivis par des médecins qui mettent un peu de l'huile dans les rouages tout le temps. Et donc, je l'ai rencontré grâce à Jean Habitbol et on discutait comme ça. Et puis il me dit, alors malheureusement, je peux pas vous le faire, mais lui, il le faisait merveilleusement bien avec la voix de Jacques Chirac. Il me disait, moi, Jacques Chirac, je l'ai attrapé sur une phrase, et cette phrase-là, c'était « Je connais bien la Calédonie, j'y suis allée 11 fois ». Et donc, il vous fait ça avec la voix de Jacques Chirac, et c'est vrai qu'à un moment donné, il va capter l'intonation particulière, le placement particulier de la voix, et à partir de là, une fois qu'il l'a capté, il est capable de le retranscrire un peu dans n'importe quelle phrase, finalement, dans n'importe quel contexte de communication que pourrait avoir.
Bah, quand vous voulez.
Vous le prenez quand même ?
Oui, je le prends.
Mes chers compatriotes, cette semaine, la crise afghane a connu une évolution majeure. Elle n'est pas encore réglée, mais le régime qui soutenait les terroristes a été défait. Les soldats français sont partis ce matin en Afghanistan pour participer à une action internationale de secours et d'assistance aux populations. Le 11 septembre, le monde avait été frappé par la terreur. La haine avait assassiné des millions d'innocents avec une violence inouïe. Et chacun, soudain, s'était senti menacé, vulnérable. Je vous avais dit à l'époque que la France ferait face. C'est ce que nous avons fait. La vie a continué avec plus de vigilance, plus de précautions, plus de contraintes. Des contraintes dont vous avez tous compris la nécessité. La France s'est tenue aux côtés du peuple américain par amitié, par solidarité, mais aussi parce que nous savions que toutes les démocraties sont en danger lorsque l'une d'elles est ainsi frappée au cœur. Fort de votre soutien, j'ai exprimé la vision de la France et les exigences qui la fondent à Washington, à New York, aux Nations Unies et auprès de nos principaux partenaires en Europe et dans le monde. Je le ferai encore dans quelques jours en Tunisie, en Algérie et au Maroc.
D'ailleurs, il me dit tout le temps qu'il a besoin de se mettre dans la peau du personnage. C'est aussi un travail de comédien, finalement. Il a besoin, quand on avait travaillé, souvent il me demandait « Mais dans quel état d'esprit il faut que je sois ?» Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que ça doit être une allocution télévisée ou une conférence? Ou il a besoin de ça, de savoir comment va se sentir le personnage aussi pour retranscrire cette voix imitée.
Et avoir une adresse la plus juste.
Exactement.
Et donc il arrive à prendre, oui, les bonnes respirations, allonger les syllabes, au contraire les raccourcir.
Absolument. Et vous parlez de bonnes respirations, c'est intéressant ce que vous dites parce que notamment quand il fait les imitations de Johnny Hallyday et étrangement, surtout dans la voix parlée, il a rajouté un son d'inspiration, un léger comme ça de temps en temps, qui fait que d'un coup, ouais, effectivement, ça passe d'une bonne imitation à une excellente imitation parce que la voix et l'identité, finalement, du locuteur se jouent aussi dans ses silences et dans ses respirations.
Là où j'avais trouvé ça très frappant, hein, c'était sur les exemples entre Nicolas Sarkozy et Frédéric Mitterrand.
Oui, alors j'avais choisi, vous faites référence à la conférence à laquelle vous aviez assisté il y a quelques mois. J'avais choisi ces deux voix-là volontairement parce que si on réfléchit en termes d'habitude de discours, en termes de prosodie et en termes de placement de voix, la voix de Nicolas Sarkozy et la voix de Frédéric Mitterrand sont totalement opposées. Voilà. Il n'y a rien de commun entre les deux, si ce n'est qu'ils articulent des mots et qu'ils donnent du sens à ce qu'ils disent, mais sinon, dans la sonorité et dans l'organisation particulière de leur voix, il n'y a rien de commun. Et donc, ça nous permet d'avoir une étude qui est plus facile, finalement, de se dire, tiens, comment va être ce placement-là? Quel est ce rythme particulier?
Et dans le livre, donc, il dit qu'il n'avait pas conscience techniquement de ce qu'il faisait. J'ai bien compris, parce que ça me paraît assez étonnant d'arriver à moduler autant l'appareil vocal sans avoir pris de cours de chant.
Il l'a pas, il l'a toujours pas. Et je crois que personne l'a, en fait. Je crois que là où s'exprime l'art, c'est dans le talent et pas dans la technique. La technique, elle est nécessaire avant. Et évidemment que, comme tout le monde, il travaille ses voix, enfin. Il les répète, il vérifie, il s'enregistre, il se réécoute, mais il n'a pas de travail technique à proprement parler. Et je crois que c'est vrai aussi chez les chanteurs, en fait. Quand vous êtes à l'entraînement, vous vous dites peut-être qu'à ce moment-là, vous avez besoin de faire un son plus clair, ou un peu plus puissant, ou d'être préférentiellement en voix de tête ou en voix de poitrine. Mais une fois que vous êtes sur scène, vous êtes dans votre musique.
Oui, ce que me disait moi mon prof de chant au conservatoire, c'était que souvent les meilleurs chanteurs n'étaient pas les meilleurs professeurs parce qu'ils étaient tellement doués qu'ils ne savaient pas expliquer comment ils faisaient que pour les autres, on a besoin de passer vraiment par un process et après on peut être plus à même de l'expliquer aux autres.
Sans compter que quelquefois, ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre, en plus. Donc non, il est dans une espèce d'instinct. Avec cette intelligence-là, de savoir percevoir, de savoir reproduire, il faut savoir quand même que il a commencé par jeu à imiter des voix quand il avait 4 ou 5 ans, Laurent Gérard. Et ça lui plaisait tellement qu'il a fait ça à longueur de temps. Donc fatalement, il a beaucoup d'expérience, beaucoup d'entraînement. Et cette chose-là est rentrée dans son fonctionnement. J'imagine que beaucoup des chanteurs qui viennent vous consulter, j'allais dire, mais qui viennent prendre des cours de chant avec vous, ils ont tous déjà chanté, même les débutants. Ils ont tous déjà expérimenté leur voix et probablement qu'il y en a certains qui ont déjà une voix qui est drôlement bien placée et drôlement chouette déjà.
Oui, et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de chanteurs, et moi la première, très souvent, on a commencé enfant par faire des imitations.
Ce qui est bien, c'est qu'en fait, les enfants n'ont pas de limites. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le problème d'inhibition qu'on ressent tous par rapport à notre voix une fois qu'on est un peu adulte. Moi, quand je prends mes patients en charge, ce sont des gens qui donc rencontrent des difficultés vocales. Je suis pas comme vous en train d'optimiser la voix de chanteurs qui ont déjà de jolies voix. Moi, j'essaye de guérir des nodules, de rendre plus claire une voix cassée et donc on rentre dans un cadre un peu différent. Mes patients, je les fais tous chanter, tous. Quel que soit l'état de leur corde vocale et je fais même chanter de temps en temps des gens qui ont eu un cancer à qui on a enlevé un petit morceau de larynx. Donc tout le monde peut chanter finalement. Je vous laisse imaginer d'ailleurs le bonheur que ça peut être pour un patient à qui on a enlevé un morceau de larynx de découvrir qu'il peut encore chanter. Alors bien sûr, on va pas faire du balavoine, mais déjà chanter du Gainsbourg, c'est quelque chose de faramineux pour eux. Et ce que je rencontre toujours systématiquement chez mes patients à un moment, au début de la prise en charge, c'est cette forte inhibition où en fait ils n'osent pas, ils ont honte. Voilà. Et moi je crois que dans la voix, en fait, tout peut fonctionner correctement à partir du moment où on s'en donne les moyens et où on l'assume. Vous rencontrez sûrement la même chose. De temps en temps, on donne un exercice nouveau qui est peut-être qui ressemble un peu à une grimace vocale et qui est peut-être un peu ridicule ou perçu comme ridicule. Et nos patients ou nos élèves, dans ces cas-là, ils vont le faire à minima, presque en chuchotant. Mais ça peut pas marcher comme ça. Voilà. C'est à partir du moment où on assume la chose, où on la vit intégralement et on fait tomber cette barrière d'inhibition, qu'on va réussir à faire quelque chose qui va nous emporter plus loin.
Comme le font les enfants.
Voilà, donc chez les enfants, cette chose-là, il n'y a pas de barrière. Ils s'en fichent d'être ridicules. Au contraire, ils aiment bien expérimenter des choses un peu étranges. Et du coup, ça leur donne des capacités énormes pour progresser.
Et en parlant donc des enfants, c'est vrai qu'il y a le côté émotionnel. Moi, je trouve que d'imiter, enfin moi personnellement, j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à chanter avec ma propre voix en public. Ça me gênait énormément, tandis que d'imiter, je pouvais le faire devant tout le monde parce que ce n'était pas moi. Donc émotionnellement, je mettais un petit peu mes émotions à l'écart. Et vous avez fait donc des recherches sur les émotions. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce que notre voix laisse percevoir de nous ?
Alors, les émotions, c'est quelque chose qui me fascine totalement. Et puis, je me suis beaucoup intéressée à ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens pensent que la voix est fabriquée pour rendre compte de l'émotion. L'émotion est ressentie et vient impacter la voix. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va maîtriser en soi. Quand on pense aux émotions, on pense toujours à leur dimension psychique, à ce côté un peu psychologique de qu'est-ce qu'on ressent qui est très impalpable finalement. Mais en vérité, les émotions, elles ont un point de départ qui est physique, qui est biochimique à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du corps. Le cerveau perçoit quelque chose, il déclenche des neurotransmetteurs qui vont changer quelque chose dans le fonctionnement. Si on prend la peur, par exemple, c'est facile à comprendre, quand on a peur, donc on a un stimulus extérieur, quoi, quelque chose qu'on a vu ou quelque chose qu'on a entendu, qui déclenche dans notre cerveau la libération d'adrénaline. Et cette adrénaline, elle va augmenter les battements cardiaques pour que le corps soit prêt à réagir, en vérité. Mais comme les battements cardiaques augmentent, la fréquence respiratoire va augmenter aussi. Donc, on va respirer de manière plus ample et de manière plus rapide. Et puis, tous les muscles de notre corps vont se tendre pour être prêts à faire face à la situation. Et finalement, comme notre voix utilise le souffle qui vient des poumons et les muscles des cordes vocales, ben, fatalement, ça va s'entendre dans la voix, qui va être plus forte, plus aiguë. Et donc, les émotions, en fait, c'est le système de communication archaïque. Et il nous reste des choses de l'époque où on était simplement des mammifères. Pour les mammifères, pour les animaux dans la nature, il n'y a rien d'autre qui vaut d'être communiqué que les émotions. Et toutes les émotions ont pour objectif de sauvegarder l'espèce. Et donc pour ça, ben, la peur qui va engendrer une expression va transmettre l'émotion au reste du groupe qui va réagir en conséquence. Voilà. Et donc comme ce système d'émotions est archaïque, est un système de communication, bah finalement, c'est ce qui reste aussi à nous dans notre voix. Voilà. Et comme on ressent des émotions, que ça vient impacter notre voix, bah, on a l'habitude de l'entendre chez les autres et tout ça se fait très naturellement, ce qui fait que on n'a pas de mal à lire l'émotion dans la voix de quelqu'un d'autre, même si on n'a pas conscience de ce qui se passe.
Il y a beaucoup d'études en psychologie sur la dimension des émotions, dans les expériences de Paul Ekman. Est-ce que vous voulez bien nous parler de la catégorisation des émotions et de la façon dont cela se ressent sur la voix ?
Alors, oui, Paul Ekman, c'est un chercheur américain qui est extrêmement connu, qui a commencé à s'intéresser aux émotions sur la base des travaux de Darwin, donc les travaux évolutionnistes qui sont très anciens maintenant. Et donc, son idée, c'était de penser que lui, il s'intéressait à l'expression faciale des émotions. Et donc, son idée, c'était que l'expression faciale des émotions, donc le sourire pour la joie, les sourcils froncés pour la colère, etc., c'était quelque chose d'universel, qui n'était pas fixé par quelque chose de culturel. Et donc, il est... Alors, je vous la fais courte, mais bon, il est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans une population de chasseurs-cueilleurs qui n'avaient jamais vu l'homme blanc, qui n'avaient jamais été soumis à quelque trace culturelle ou sociologique que ce soit. Et il leur a demandé d'exprimer des émotions qu'ils ont toutes exprimées comme tout le monde, en écartant les lèvres pour le sourire, en fronçant les sourcils pour la colère. Et ils ont été capables de reconnaître les émotions sur des photographies prises sur des gens de n'importe quel pays. Donc il a montré comme ça que l'expression des émotions était universelle. À la suite de ça, longtemps après, mais sur les bases de ces travaux-là, c'est Pascal Belin, qui est un chercheur de l'Institut de neurosciences de la Timone, ici à Marseille, qui a fait la même chose, la même expérience, à partir de l'expression vocale des émotions, et qui a montré la même chose. Sur des interjections, c'est-à-dire sur des « a », le « a » de colère qui peut être « ah », le « a » de la joie qui sera « ah ». Et donc, il a fait beaucoup d'enregistrements, et il a fait écouter ces enregistrements, et en fait, on est capable de reconnaître ces émotions-là de cette manière-là. On va tous les produire également de la même manière. Ces travaux avaient été réalisés seulement sur des interjections parce que si on met du contenu de sens, alors soit on va donner un indice, soit on va perdre complètement les auditeurs qui, si vous devez dire « je suis allée chercher le pain avec une émotion de tristesse », ça va compliquer un peu l'affaire. Donc c'était juste sur des « a ». Mais n'empêche que c'était extrêmement pertinent et que les résultats qu'il a récupérés sont très pertinents du point de vue statistique.
Et dans toutes les études, il y a la dimension d'introversion et d'extraversion qui est présente. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ?
Alors, bon, la personnalité, bien sûr, a intéressé les chercheurs en psychologie, et c'est bien normal, c'est leur thématique absolue. Et donc, il y a beaucoup d'échelles psychométriques pour mesurer le tempérament ou la personnalité des gens. Et effectivement, toutes ces études-là, toutes ces échelles-là ont en commun l'introversion et l'extraversion. C'est ce qui veut dire qu'en fait, c'est une dimension qui est très importante puisqu'elle se retrouve dans toutes les études. Quelqu'un qui est introverti est quelqu'un qui va être plutôt timide, qui va avoir envie de se positionner entre le mur et la tapisserie, comme on dit, hein, de surtout pas se montrer, surtout passer inaperçu. Et la voix de la timidité, on l'imagine bien, c'est une voix qui respecte exactement la même envie de passer inaperçu. Donc, ça va donner des voix qui vont être douces, qui vont être plutôt graves, qui vont être sur le souffle, qui vont être très peu intenses, en fait. Donc, si je suis timide, ben, en fait, je vais vous parler un peu comme ça.
Ben, je demandais un petit peu de temps avant la prise pour pouvoir me mettre dans le sentiment, et puis après ça coulait tout seul.
Comme une vraie pro, alors.
Bon, je sais pas si fond comme ça.
Ben, je sais pas, t'as pas demandé un peu à Jane?
Si, elle fait comme ça.
Alors que la voie de l'extraversion, c'est rigoureusement l'inverse. Les gens extravertis sont des gens qui sont très volubiles, qui ont envie d'être le centre de l'attention, pour le coup, et qui donc vont utiliser une voix qui est beaucoup plus empreinte d'énergie, avec des voix qui sont plus aiguës, avec des intonations beaucoup plus marquées, des aigus plus aigus, des graves plus graves, et puis beaucoup plus puissantes. Donc c'est des voix qui vont être un peu tonitruantes, finalement.
Dans l'une de vos conférences, hein, vous prenez l'exemple de Florence Foresti, et c'est vrai que c'est très parlant.
Ouais, j'en ai beaucoup parlé. Alors, si vous voulez, on en reparle. Mais c'est vrai que, oui, bah, évidemment, on se fait tout un film de la maternité, tout un monde aussi de la vie des parents, et on se dit qu'en devenant parent, on devient sérieux, on met une cravate, enfin,
et donc,
ce qui vous concerne.
Et donc, on pourrait perdre son humour.
Et on pourrait perdre, oui, un petit peu de son second degré. Et puis, on se rend compte que si on le souhaite, on peut très bien rester ce qu'on est.
En tant qu'orthophoniste, vous avez suivi des cas cliniques. notamment avec votre collègue psychiatre Françoise Gauthier, qu'avez-vous remarqué ensemble au niveau de la voix et de la psychologie, au niveau des progrès, au niveau des avancées?
Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Françoise Gauthier, qui est psychologue, qui n'est pas psychiatre. Ça ne change pas grand-chose, mais on a travaillé beaucoup ensemble. D'abord, ça a été mon enseignante quand j'étais à l'école d'orthophonie, et puis elle a travaillé comme moi dans le service ORL de la PHM à Marseille pendant de longues années. Et on a pris en charge, en fait, régulièrement ensemble, des patients qui souffraient de dysphonie ou d'aphonie psychogène. Ça veut dire des troubles de la voix, voire une aphonie totale, c'est-à-dire il n'y a rien qui sort, d'origine psychologique, suite à un traumatisme plus ou moins affectif qui est survenu dans leur vie, dont ils ont conscience ou pas, d'ailleurs.
Alors la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'un seul traumatisme peut suffire ou est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs traumatismes?
Un seul traumatisme peut suffire et il n'y a pas de, comment dire ça, de hiérarchie dans ce qui pourrait nous sembler important ou pas comme un traumatisme. Je me souviens d'une dame qui avait perdu son chien brutalement, qui s'était fait écraser, et pour beaucoup de gens autour de moi, bah ça va, c'est un chien. Bah non, enfin moi j'ai un chien et je vous assure que si le jour où je perds mon chien, ce sera un gros traumatisme. Donc il y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ce traumatisme-là. Ça va quand même arriver chez des personnalités qui sont un peu fragiles. Mais finalement, la somatisation, c'est un processus pathologique qui existe depuis toujours, qui est largement étudié dans d'autres disciplines. Je pense notamment au fait que tout le monde sait que l'eczéma, c'est dû au stress. Et ça choque personne. Voilà. Perdre sa voix à cause d'un événement psychologique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire passer, finalement, à la fois aux médecins et aux patients. Alors que finalement, les modifications dans notre corps qui sont contemporaines d'une émotion, mais on les ressent tout le temps. Et je réfléchissais à ça l'autre jour et je disais à une amie, finalement, les gens qui ne croient pas à la somatisation sont des gens qui n'ont jamais vécu le début d'une histoire d'amour. Parce que finalement, en début d'histoire d'amour, il se passe rien d'autre que des émotions qui vont faire que notre cœur s'emballe, qu'on a les mains moites, qu'il se passe des tas de choses dans notre corps. Et voilà, donc finalement, la question de la dysphonie ou de l'aphonie psychogène, c'est rien d'autre qu'une somatisation. C'est le corps qui vient exprimer quelque chose que le mental n'arrive plus à gérer, finalement.
C'est vrai que chez les chanteurs, c'est encore très tabou hein, quand il y a des problèmes sur la voix. On dit toujours à ce chanteur, il a une mauvaise technique. Alors que très souvent, c'est aussi dû à des problèmes psychologiques, à un choc émotionnel ou...
Mais sûrement, j'en doute pas. Moi, je l'ai jamais vu chez des chanteurs. Enfin, j'ai jamais été sollicitée pour ce genre de travail chez un chanteur. Mais j'en doute pas. Évidemment, vous savez, dans le cerveau, et ça, c'est encore en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le système archaïque de communication que sont les émotions. Dans le cerveau, si on s'intéresse aux fibres nerveuses qui vont générer la mobilité du larynx, eh bien, il y a un faisceau qui part directement du système limbique. Et c'est le système qui gère les émotions dans le cerveau. Mmh. Donc en fait, le lien, il est immédiat. Et je dirais même que c'est pas tellement que la voix peut exprimer les émotions, c'est qu'elle est faite pour ça.
Mmh. C'est vrai que je vois, j'avais des chanteurs hein, qui avaient des aphonies. Moi, j'entendais rien, je les envoyais chez le phoniatre. Le phoniatre disait qu'il y avait rien. Et au final, la personne qui réglait le problème, c'était la psychologue.
Ça m'étonne pas. Alors à vrai dire, donc... Quand on est confronté à ce genre de situation, on peut pas faire grand-chose, nous, pour accompagner les gens, si ce n'est être à leur écoute et leur laisser un espace pour en parler. Voilà. Mais en vérité, il n'y a pas vraiment d'exercice qui permette de débloquer la situation. La situation se débloque toujours à partir du moment où les gens sont prêts. Mmh. Voilà. Moi, je leur demande pas vraiment de me raconter l'épisode traumatisant. Je me dis que c'est pas mon affaire. De fait, souvent, ils finissent par me le raconter. Mais je vais pas à la pêche à ça. J'essaye surtout de leur expliquer le lien normal, évident et direct entre la voix et les émotions. J'essaye de leur faire comprendre et de leur faire ressentir que la somatisation, c'est des choses qu'ils ont aussi vécues déjà dans d'autres circonstances. Par exemple, quand on a des maux de ventre juste avant un examen, c'est pas parce qu'on a mangé quelque chose de pas bon, c'est parce que c'est le stress. Quoi.
C'est comme les chanteurs qui ont des angines à chaque fois avant leur concert.
Exactement. Et comme par hasard, c'est des angines. Voilà. ça va se focaliser sur l'élément du corps qui est le plus utilisé et le plus crucial pour la personne. Donc, un chauffeur de taxi, il aura mal au dos s'il a un problème de somatisation. Un joueur de tennis, il aura mal au coude. Et un chanteur, bien sûr, va avoir des problèmes de voix.
Et donc, au niveau du suivi, comment ça se passait sur le travail que vous faisiez? Est-ce que vous vous concertiez au niveau de vos patients avec Françoise Gauthier?
Au début, oui, sans doute. Mais je dirais qu'après, on avait une telle habitude à la fois de cette situation-là et aussi une telle confiance dans le travail l'une de l'autre qu'on l'a moins fait. On échange un peu en début de prise en charge. Généralement, la plupart du temps, ces patients-là me consultent moi en premier. Enfin, ils consultent en ORL en premier.
Ils vont voir le symptôme.
Voilà, qui identifie le problème de voix d'origine psychologique. Et puis donc, ils me l'adressent. Et moi, je l'adresse après à Françoise, donc à la psychologue. Finalement, ce que les gens disent à Françoise, qui est tenue au secret professionnel comme moi, me regarde pas. Et donc, voilà, on se pose un peu les bases de la situation. Moi, je dis un peu ce que j'ai perçu de ce qui avait pu se passer, à quel moment ça a commencé, comment ça se répercute sur la voix. Et puis après, on fait notre travail un peu chacune de notre côté.
Et est-ce qu'il y a un délai? Je sais que c'est très variable. Au bout de combien de temps une personne arrive-t-elle à régler, ou est-ce que ça arrive que des patients n'arrivent pas à régler les problèmes d'aphonie?
C'est très variable. Que ça... Je ne saurais pas vous dire si ça arrive, si quelquefois ils n'arrivent pas à le régler, parce que il y a des patients qu'on perd de vue, évidemment. On les perd de vue potentiellement pour deux raisons. Soit parce que le problème s'est résolu et qu'ils sont partis vivre leur vie avec leur voix ailleurs. Soit parce que le problème s'est pas résolu et qu'ils se sont découragés, mais là, généralement, ils ne reviennent pas vous le dire. Donc, c'est un peu difficile de savoir ça, mais en vérité, moi, j'ai le sentiment que ça finit toujours par céder. Je pense à une patiente que j'avais suivie qui venait me voir de Toulouse une fois par mois ou toutes les trois semaines, parce que ça lui permettait d'obtenir pas mal de bénéfices secondaires, finalement. S'il fallait qu'elle aille consulter si loin de chez elle, c'est que manifestement son problème devait être très très grave et que voilà, donc donc je l'ai suivie pendant un certain temps. J'étais capable de faire des sons avec sa voix, mais jamais dans la communication. C'est-à-dire qu'elle pouvait fredonner, mais elle pouvait pas vous parler. Et puis je l'ai plus vue pendant un long moment, et puis peut-être 6 mois après, elle m'envoie un petit SMS pour reprendre rendez-vous, et là je la vois arriver avec sa voix et elle me dit: Madame Révis, je suis contente de venir vous remercier parce que vous m'avez aidée. Bon, peut-être, j'espère. Mais elle était sur béquille. Et en fait, elle avait un problème de dos que les médecins ne réussissaient pas à identifier, et il n'y avait pas de pathologie en soi, mais n'empêche que elle avait ce problème de dos qui la faisait souffrir et qui était inexpliqué, qui était vraisemblablement un déplacement du symptôme vers un autre organe du corps, ce qui est quelque chose qui a été fréquemment décrit dans les phénomènes de somatisation.
Oui, moi, c'est vrai que je travaille aussi avec une hypnothérapeute chez qui j'envoie certains élèves, notamment pour le trac et d'autres pathologies. Elle me disait qu'elle faisait toujours très attention parce que le problème pouvait se déplacer.
C'est ça. C'est des choses qui arrivent. Là-dessus, on n'a pas de prise, hein, finalement. Il faut qu'à un moment donné, la situation psychologique devienne suffisamment stable pour que le corps n'ait plus besoin de décharger ce surplus émotionnel sur un autre organe. Finalement, ça... C'est le sujet lui-même, le patient lui-même qui finit par trouver la clé de ça. Nous, on l'accompagne, on lui explique, on essaye de l'aider comme un peu, mais...
Que laisse entendre notre voix de nos intentions?
Ah, dans les intentions, c'est formidable, parce qu'en fait, toutes nos intentions passent par la voix. Et ça, c'est la magie de l'intonation, finalement, de ce qu'on appelle, nous, en linguistique, on appelle ça la prosodie. Mais je sais que souvent, les gens comprennent pas trop la prosodie. La prosodie, c'est l'intonation, c'est la même chose. Donc, c'est... Le fait que quand on parle pas tout le temps comme ça, sur un même ton, sinon on sonne comme un robot. Finalement, quand on parle, la voix, quelquefois, elle monte et quelquefois, elle descend.
Il y a des personnes qui parlent comme ça et qui, justement, viennent prendre des cours.
Il y a des personnes qui luttent contre la monotonie de leur voix, mais c'est jamais aussi caricatural que l'exemple que j'ai dû faire. Et en fait, on peut prononcer la même phrase en faisant varier l'intonation, ce qui va lui donner un sens complètement différent. Et pour ça, moi, j'ai un exercice que je vais faire. Je vous le donne. Vous pourrez l'utiliser si ça vous intéresse. On prononce la phrase « Je n'ai pas dit que tu avais volé l'argent ». Donc là, je vous l'ai dit de façon totalement neutre. Mais je peux faire varier mon intonation de manière à ce que vous compreniez le message différemment. Si je vous dis « Je n'ai pas dit que tu avais volé l'argent. » J'ai insisté sur le « je ». Donc, c'est pas moi qui ai volé l'argent. « Je n'ai pas dit que tu avais volé l'argent. » Là, j'ai pas dit que c'était vous. « J'ai pas dit que tu avais volé l'argent. » Peut-être que tu l'as mérité. Et finalement, quand on a une phrase comme ça qui contient des mots qui sont identiques, c'est seulement la variation vocale, c'est proche du chant finalement, c'est seulement la variation vocale qui va donner à notre voix un sens différent. Et ça, à moins d'être comédien, on le fait pas en conscience. Les comédiens ont conscience de ça probablement et utilisent ça, mais quand une petite fille de 4 ans vient vous voir et vous dit oh, « s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !» et pas juste « s'il te plaît », elle sait pourquoi elle le fait. Et elle sait ce qu'elle veut obtenir. Et elle sait l'effet que ça a sur vous. Donc finalement, cette question de faire varier l'implication vocale qu'on donne dans notre message, bah, c'est une première source de manipulation.
Est-ce que vous voulez bien nous expliquer qu'est-ce que l'apparence sonore ?
En fait, on peut considérer que... On parle souvent de quelque chose qui serait vraiment typique d'une personne dans la voix... Souvent, quand on regarde les télécrochets, les The Voice, les choses comme ça, on entend « Ah, c'est formidable parce que ce chanteur-là, il a une empreinte vocale. À l'instant où il fait sonner sa voix, on se rend compte que c'est lui et on le reconnaît tout de suite. » On a tous des voix différentes, de la même manière qu'on a un visage différent. Ce qui fait que votre visage n'est pas le même que le mien, malgré le fait que nous ayons toutes les deux yeux, un nez et une bouche, enfin a priori, c'est que c'est les proportions, la forme et la proportion de ces éléments-là à l'intérieur de notre visage qui fait qu'on va nous identifier différemment. Pour la voix, c'est un peu la même chose. Donc, on a a priori tous deux cordes vocales, des poumons pour faire vibrer et un tractus vocal, enfin des cavités de résonance pour faire résonner tout ça et donner une couleur. Mais si l'anatomie est la même... La forme spécifique d'un individu à l'autre n'est pas forcément la même. Et ça va être généré par les règles de la génétique, finalement. Si vous ressemblez un peu à votre maman, si votre visage ressemble un peu à celui de votre maman, il y a toutes les chances du monde pour que, à l'intérieur, vous lui ressembliez aussi un peu. Voilà. Mmh. Et donc, s'il y a des similitudes entre le son de votre voix et le son de voix de votre maman, c'est peut-être parce qu'à l'intérieur, les cavités de résonance ont des formes similaires et que ça va sonner un peu pareil. Plus le fait que vous avez appris à parler et à utiliser votre voix en l'écoutant et donc en l'imitant. Et vous voyez que finalement, l'imitation, la voix, l'apprentissage, la manière dont on sonne spécifiquement les uns les autres, tout est lié. Donc cette apparence sonore, c'est ça. C'est l'idée que la voix, c'est un peu comme un visage sonore, qu'on est tous à la fois les mêmes et très différents. Et que notre singularité va sortir aussi dans notre voix, à la fois par son timbre et aussi par notre manière d'utiliser son expressivité.
C'est vrai que je le vois. Alors, ma mère est chanteuse, mais elle est mezzo, donc on a des voix très différentes. Ma sœur, par contre, a une voix très proche de la mienne, mais elle l'utilise complètement différemment. Donc, quand elle parle, même si nos timbres se ressemblent, elle va timbrer différemment, elle va la placer différemment. Par contre, très régulièrement, elle s'amuse. Maintenant, elle est un peu plus grande, donc moins. Mais elle s'amusait par contre à se faire passer pour moi au téléphone et elle y arrivait parfaitement.
Oui, ça ne m'étonne pas. C'est... Après, effectivement, il y a des chemins divergents qu'on va emprunter, peut-être parce que vous n'avez pas forcément les mêmes goûts musicaux et pas investi le même style de musique. Mais ça dit une chose qui est intéressante aussi et que vous devez constater tout le temps, c'est que quelqu'un qui n'a jamais chanté et qui veut se mettre à chanter est un terrain propice à développer n'importe quelle technique de chant.
Oui. Et c'est souvent plus facile de donner des cours de chant à un débutant, quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de chant, ou alors à quelqu'un qui a pris beaucoup de cours de chant. Ce qui est compliqué, c'est quelqu'un qui a pris peu de cours de chant et avec une seule personne.
Inversement, à partir du moment où on a beaucoup, beaucoup investi un style de chant particulier, c'est souvent difficile de le déconstruire pour aller en adopter un autre.
Je pense à
Nathalie Dessay, qui est une merveilleuse chanteuse. À l'instant où elle est passée du lyrique au jazz, il y avait encore beaucoup de lyrique dans son jazz.
Oui, et maintenant, c'est incroyable.
Il a fallu un peu de temps pour que les techniques changent, les habitudes changent. Et je vous envie beaucoup de recevoir Nathalie. Je viendrai me mettre dans un coin, si vous m'autorisez.
J'ai mis beaucoup de temps avant de l'avoir. Mais moi, j'ai eu le même problème, puisque j'ai fait plusieurs années où j'ai fait exclusivement du chant lyrique. Pour retrouver un placement plus naturel, ça a été très difficile. Et je ne pouvais pas aller sur certaines hauteurs parce que de suite, ça sonnait lyrique.
Et oui, ça m'étonne pas.
Je le vois sur des élèves qui font et du lyrique et de la musique actuelle. C'est pas évident de concilier les deux quand on a favorisé, surinvesti l'une des techniques.
Et d'ailleurs, je vais me permettre de vous poser une question. Alors, on va inverser un peu les rôles un instant. Très longtemps, je suis un peu plus âgée que vous, donc j'ai des références peut-être un peu plus anciennes. L'apprentissage du chant était, de fait, forcément, l'apprentissage du chant lyrique et du chant d'opéra. Et donc, ça a évolué, ça, quand même, maintenant.
C'est assez récent, hein. C'est vrai que pour beaucoup de gens, encore, la norme, on pense que c'est mieux de faire du chant lyrique. Alors que parfois, je vois des gens qui veulent faire que de la musique actuelle, ils pensent que ça serait mieux d'aller voir un professeur de chant lyrique. C'est resté un petit peu la référence, comme pour certains, de se dire on commence la danse par la danse classique, alors que maintenant, il y a plein de techniques qui existent. Avant, il y avait que le conservatoire qui existait, et le conservatoire restait essentiellement lyrique. Donc oui, ça a évolué, mais c'est encore assez... Moi, je l'observe depuis une dizaine d'années, ce changement-là. Mais c'est vrai que c'est resté un petit peu la norme. Après, c'est bien de travailler les deux, mais c'est différent.
C'est amusant l'analogie que vous faites avec la danse classique. Effectivement, chez les danseurs classiques qui se mettent au contemporain, souvent, on voit encore dans le geste une empreinte classique qui reste.
C'est ça, moi, je prends des cours de danse orientale et ma professeure de danse me disait qu'elle a eu pendant longtemps parmi ses élèves une danseuse du Bolchoï. Et je lui dis, elle devait avoir une super mémoire, elle devait bien travailler. Elle me dit, c'était très compliqué parce qu'elle dansait comme une danseuse classique.
C'est pas le même feeling.
C'est ça. Donc, vous avez parlé des sosies vocaux. Et par rapport à l'apparence sonore aussi, parfois, on peut être un peu désarçonné quand on a une personne au téléphone. En général, je trouve que c'est assez fidèle. Moi, je vois les gens m'appellent pour des cours de chant. En général, l'idée que je m'en fais est très, très fidèle à la personne que je vais recevoir. Mais parfois, je me rappelle d'une dame qui avait une voix extrêmement jeune. Je m'attendais à voir arriver une jeune femme de 20 ans. Et puis, c'était une dame qui avait la cinquantaine passée. Et c'est vrai que parfois, on est un peu surpris quand on voit la personne.
Ah, c'est amusant. Effectivement, alors, je vais vous étonner. Il y a des travaux de recherche qui ont été menés par un immense chercheur qui s'appelle Ingo Tidze, qui est celui qui a inventé toute la recherche dans le domaine de la voix. Et j'imagine que Nathalie Henrich-Bernardoni avait dû vous en parler probablement d'Ingo Tidze.
Je ne sens pas qu'elle en avait parlé. J'ai vu plusieurs de ses conférences.
Ingo, il a fait une étude il y a quelques années qui montre que on est capable de percevoir l'âge d'un individu au téléphone à plus ou moins 5 ans près, ce qui est incroyable comme niveau de précision en vérité. Et pour autant, il nous est tous arrivé, l'anecdote que vous venez d'expliquer, d'être étonné par une voix qui était juvénile pour un locuteur qui l'était moins, ou l'inverse d'ailleurs. Et ça, c'est drôle parce que ça veut pas dire que ces conclusions ne sont pas vraies. Ça veut dire au contraire qu'elles sont vraies. On arrive tellement bien, dans la plupart des cas, à identifier l'âge de quelqu'un, que le jour où on n'y arrive pas, ça nous marque beaucoup. Ça nous étonne beaucoup. Et comme finalement, on ne se souvient bien que de ce qui est sorti de notre quotidien, qui est sorti de notre norme, on se dit, finalement, non, la voix, on peut pas identifier l'âge de quelqu'un. Mais en vrai, si, la plupart du temps, ça marche, c'est l'exception qui confirme la règle et qui donc nous marque beaucoup.
C'est comme par téléphone, quand on doit échanger avec des personnes pour des recrutements ou diverses choses, c'est vrai qu'on entend le dynamisme de la personne, on entend beaucoup de choses qui font que on arrive à se dire, cette personne, ça pourra le faire ou non. Et on aura envie, par exemple, de proposer un entretien. Mais je trouve que par téléphone, on entend beaucoup sur le caractère sans être troublé par les autres facteurs.
Tout à fait. Et en fait, vous dites très justement, ce qu'on entend, c'est le tempérament des gens. C'est leur caractère. L'idée, c'est pas de faire de la divination à partir de l'écoute d'une voix. Et c'est pas de se faire une image précise comme une photographie en se disant, elle a une voix de blonde. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, sur son dynamisme, sur son caractère enjoué, son sérieux, ses compétences, on peut avoir des éléments qui sont très intéressants. Après, de la même manière que on va tenter lors d'un premier rendez-vous de se présenter sous notre meilleur jour, on va aussi vraisemblablement tenter de se présenter sous notre meilleure voix le jour d'un entretien téléphonique, et il est possible que les magnifiques qualités qu'on avait décryptées ne durent pas, ne se confirment pas sur la durée. Après, c'est encore autre chose. C'est toujours l'habitude que l'être humain a de porter un jugement sur l'autre qui est extrêmement rapide et qui est pertinent ou pas. Mais ça, après, c'est le temps qu'il dit, si ce premier jugement était pertinent ou pas.
Je voulais vous demander, quelle est la plus grande émotion que vous ayez eue dans votre carrière ou personnellement en lien avec la voix?
Je pense que j'ai le souvenir d'une patiente qui avait eu un cancer du larynx. Alors moi, je ne prends pas en charge les cancers du larynx, du moins pas en première intention. Parce que au sortir d'une chirurgie laryngée, comme ça, quand même très mutilante, il y a des priorités. Et les priorités, c'est d'abord être capable d'avaler, sans avaler de travers, ça c'est vital. Et ensuite, être capable de faire un son. Voilà. Cette patiente à laquelle je pense avait déjà franchi ces étapes-là avec une orthophoniste très spécialisée dans ce domaine-là, ma collègue Camille Galland de l'hôpital, que je salue au passage. Et c'est une femme relativement jeune qui avait environ 45 ans, qui était médecin, qui était... Donc d'habitude, le cancer du larynx, c'est très schématiquement, c'est une maladie de l'homme âgé plutôt alcoolo-tabagique. Et donc cette jeune femme ne rentrait pas du tout dans ce cadre-là. Et cette chirurgie très mutilante avait été très compliquée à vivre pour elle. Et je crois que l'émotion, ça a été quand on a commencé à réussir à chanter ensemble et que j'ai vu à la fois tout qui se bousculait dans sa tête, la joie, la surprise, l'espoir. Voilà. Et ça, c'est des moments qui sont très forts, effectivement.
Et à l'inverse, est-ce que vous avez envie de nous partager un souvenir qui a été un peu difficile, un peu challengeant, et qui vous a appris quelque chose sur vous-même ou sur une façon de gérer une situation?
Pas comme ça. Je pourrais trouver, mais ça va pas me venir là comme ça, je crois.
Ah, c'est bien, d'habitude, c'est l'inverse. C'est le cerveau qui trouve les pires souvenirs et les meilleurs, ils sont plus longs à trouver.
J'ai la chance de travailler quand même dans une discipline et dans un domaine où c'est pas catastrophique, hein. Je parlais de ma collègue à l'instant qui travaille avec les gens qui ont des cancers du larynx. Elle est dans une situation qui est totalement vitale. Et d'ailleurs, c'est étrange parce que je participe à la consultation du professeur Giovanni à l'hôpital de la Conception deux fois par semaine. On consulte ensemble. Donc lui donne son avis médico-chirurgical et puis moi, je donne mon avis comportemental et technique. Et de temps en temps, on est effaré par la manière dont les gens vont vivre leurs problèmes de voix. Il n'y a pas si longtemps, on a été amené à annoncer un cancer chez un patient qui a bien sûr été un peu abasourdi, mais a accueilli la nouvelle avec une dignité totale. Et puis quelques minutes après, on a reçu une jeune chanteuse qui avait un petit nodule sur la corde vocale et qui est partie dans une crise de larmes absolue. Et bon, nous, on se dit, il faut relativiser ces choses-là, finalement, à un moment donné. D'autant plus que c'est pas grave d'avoir des nodules, même pour un chanteur. On peut guérir de nodules, on peut même se faire opérer et guérir de sa chirurgie et rechanter et faire une très belle et très longue carrière après une chirurgie de la voix. Et je pense que Nathalie Dessay saura vous en dire quelque chose.
Par rapport aux conseils que vous aimeriez donner aux chanteurs, aussi bien professionnels qu'amateurs ou même aux orateurs, comment faire pour utiliser sa voix? Parfois, on est contraint, on n'a pas envie d'annuler, alors que l'on est malade, que l'on a la voix fatiguée.
Alors, quand on a la voix fatiguée, un petit rhume, qu'on pressent qu'on va quand même pouvoir chanter, mais que ça risque d'être un peu difficile, bon, il y a quelques règles de base, je vous apprendrai rien. Il faut bien dormir, il faut boire beaucoup. Et il faut prendre le temps de s'échauffer. Voilà. L'échauffement, c'est l'arlésienne, quoi. Tout le monde sait que ça existe. Tout le monde en parle. Et personne le fait, en vrai. Ou pas vraiment. Ou pas bien. S'échauffer, c'est indispensable. Il viendrait à personne à l'idée de faire un sprint sans s'être échauffé auparavant. Pour la voix, c'est la même chose. Donc le petit moment d'échauffement est un moment qui est indispensable. Il faut garder en tête aussi qu'un échauffement, c'est entre 10-15 minutes. Allez, 20 si vraiment vous êtes motivé. Mais l'idée, c'est pas non plus de travailler sa voix pendant une heure avant de monter sur scène, parce que sinon, vous l'aurez déjà fatigué avant de rentrer dans le vif du sujet.
Ça, c'est la surchauffe et ça arrive aussi à beaucoup de chanteurs.
Exactement. Donc, pensez, voilà, dormir beaucoup, boire beaucoup d'eau, échauffer sa voix. Les petites choses qu'on peut prendre éventuellement de manière naturelle pour adoucir, assouplir un peu. Les médecins disent tous qu'il n'y a rien qui marche. Mais de fait, les remèdes de grand-mère ne sont pas si absurdes que ça. Et en tout cas, on fait la preuve de leur efficacité simplement par le fait que les gens se sentent mieux et continuent à le faire. Et donc moi, mon conseil, c'est une tisane avec du thym frais, du miel et du citron, parce que, et là encore, ça suit une logique biologique, le thym, c'est aseptisant, le miel, c'est cicatrisant, et le citron, c'est vasoconstricteur, donc ça redonne un petit coup de peps à tout ça, qu'on peut effectivement boire ou qu'on peut prendre en gargarisme aussi pour que ça vienne tapisser les muqueuses un petit peu plus longuement autour des cordes du larynx et des cordes vocales.
Oui. Et par rapport à l'échauffement vocal, est-ce que vous aimeriez nous transmettre une routine d'échauffement vocal ?
Alors, c'est déjà fait, en fait. Il existe un site internet que ma collègue et associée Stéphanie Perrière, qui est orthophoniste à Nice, a créé avec Paul Jacquero, qui est phoniatre à Nice. Ce site s'appelle infovoix.com. J'y fais quelques petites participations. Et c'est un site qui est fait à l'usage des gens qui ont des problèmes de voix. Donc, il y a énormément d'informations sur qu'est-ce qui peut se passer, qui et quand il faut consulter, quels sont les premiers gestes d'urgence à avoir par rapport à sa voix pour la préserver, etc. Et puis, il y a tout un petit onglet où on a mis en ligne des vidéos d'exercices de voix, d'échauffement vocaux, de massages vocaux. On a un spa vocal, il y a tout un truc comme ça. Que vous pouvez aller voir donc sur internet, ce sera sûrement plus visuel et plus facile de le voir en vidéo que d'en parler comme ça.
Très bien. Alors je voulais vous demander, comment arrivez-vous à faire autant de choses, des conférences, consulter, des formations en présentiel et en ligne, comment gérez-vous votre temps ?
Mal. Enfin, comme je peux. En vrai, je suis un peu boulimique de travail. En fait, peut-être que ça s'est entendu, j'espère que ça s'est entendu. La voix, c'est ma passion, en fait. Donc, il n'y a rien qui me coûte dès l'instant que ça parle de voix. Et donc, en fait, ben, je gère les choses un peu au jour le jour. Bon, vous avez bien réalisé que pour qu'on réussisse à se rencontrer pour faire ce podcast, ça a pris quelques mois. Et puis, bon, c'est pas toujours facile d'organiser les choses. Mais en fait... M'occuper de la voix des gens, parler de la voix, l'enseigner, la soigner, l'utiliser moi-même, chanter sous ma douche, dans ma voiture tout le temps, c'est ce qui me plaît le plus dans la vie. Donc, ce qui nous plaît, on fait de la place pour que ça rentre. Voilà. Hein, c'est par contre le sport, vous voyez, moins. J'ai plus de mal à trouver du temps pour aller à la salle de gym que pour parler de la voix et faire des conférences et tout ça.
Ah oui, en préparant votre épisode, j'ai appris quelque chose, je ne sais pas si ça existe parce que je n'ai pas trouvé sur internet, mais vous en parliez dans une conférence, d'un système de reconnaissance vocale qui alerte le pilote de son état de fatigue en lien avec la voix et qui lui annonce que c'est le moment de passer la commande au copilote.
Oui, c'est des choses qui existent, vous seriez étonnés hein, de tout ce que la technologie est capable de faire à
j'ai
partir de la voix.
J'ai vu le site de rencontre sur la voix aussi.
Oh, il y a plein de choses, c'est, l'imagination est sans limite pour ces choses-là. Effectivement, ça existe. L'étude que je mentionne dans mon livre était une étude qui avait utilisé seulement le canal vocal pour vérifier donc l'état de fatigue des pilotes. Bah, quand on se fatigue, on a la hauteur de la voix qui diminue. La voix devient légèrement plus grave, elle devient un peu moins forte. On a le débit de parole qui se ralentit, on a l'articulation qui devient un petit peu moins précise. Et tout ça sont des éléments qui peuvent être pris en compte pour, effectivement, vous savez, les pilotes, ils sont tout le temps en train de parler, on s'imagine pas, mais ils sont tout le temps en train de donner des indications à leur base. Et donc, effectivement, ça existe. À ma connaissance, ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que non seulement ils ont des mesures vocales, mais il y a aussi des capteurs de battements cardiaques, de réponses électrodermales, etc., qui font que... tous ces indices-là mis bout à bout peuvent permettre d'alerter les pilotes sur leur état de fatigue, là où leur interlocuteur sera peut-être moins perspicace ou en tout cas peut-être trop concentré sur le contenu des choses qui sont dites pour s'intéresser aussi à la sonorité de la voix et aux indices qu'elle pourrait donner.
J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que vous voulez bien nous parler de vos livres ?
J'ai donc écrit un livre qui est sorti en 2013, je crois, qui s'appelle « La voix et ce que notre voix dit de nous ». Qui, en fait, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre à l'époque. Je voulais faire un support de cours pour mes étudiants de première année. Et puis j'ai commencé à mettre des choses sur le papier. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais pas fini le premier chapitre et que j'avais déjà 80 pages. Et Et donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être moyen d'en faire autre chose. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure que j'ai tellement aimée. J'ai tellement aimé faire ça parce qu'en fait, j'ai appris tellement au fur et à mesure. Chaque fois, j'avais de nouvelles idées et puis je me disais, bon, il faut quand même étayer ça scientifiquement. Donc, je faisais des recherches bibliographiques et du coup, j'ai tellement appris en écrivant ce livre.
Ça vous a pris combien de temps ?
Ça m'a pas pris beaucoup. Ça m'a pris 9 mois, une grossesse. Parce que j'ai eu la chance à cette époque-là de pouvoir être un peu déchargée de certaines de mes tâches hospitalières et universitaires pour faire ça. Donc, j'étais pas à temps plein, mais enfin, j'y passais l'intégralité de mes week-ends et probablement 2 ou 3 demi-journées dans la semaine. Tout ce qui venait entraver ce travail d'écriture me cassait les pieds. J'avais envie de faire que ça quand j'étais plongée là-dedans. Et donc, mon objectif, c'était de rendre la chose digeste tout en ne disant rien qui ne soit pas scientifiquement publié, reconnu et expérimentalement validé. Donc, j'ai fait ce travail de lire la science, de comprendre la science et de la mâcher et la retranscrire de manière, j'espère, compréhensible. J'ai fait de mon mieux pour ça, mais j'ai beaucoup aimé faire cet exercice-là. Ensuite, il y a quelques années, j'ai eu la chance et la joie de rencontrer Stéphanie Perrière grâce au professeur Giovanni qui nous a présenté. Et avec Stéphanie, donc, on s'est associés pour écrire un livre qui s'appelle « Rééduquer la voix en chanson ».
Je crois que c'est ça.
Il me semble, mais...
Et donc, avec Stéphanie, on s'est associés pour écrire un livre qui s'appelle « Rééduquer la voix en chanson », dont Monsieur Giovanni a réalisé un chapitre, d'ailleurs, sur le forçage vocal. Antoine Giovanni a créé un monstre dont il ne maîtrise plus l'existence. Et donc, maintenant, on fait des formations pour les orthophonistes. Notre idée, c'est de soigner la voix par le chant. Et donc, on parcourt un peu la France pour faire des formations aux orthophonistes. Et donc ça, ben, c'est la suite de ce livre. Et puis l'année dernière, on a sorti un autre livre qui nous a été commandé par l'éditeur de book Solal pour un cahier, un manuel en fait de prévention pour la voix des enseignants, qui est un manuel qu'on a voulu ludique, facile d'accès, avec beaucoup d'exercices, beaucoup de choses pratiques. Et voilà, j'en suis là pour l'instant. Mais on a d'autres projets d'écriture, mais qui sont trop à l'état de projet encore pour que je vous en parle, mais peut-être une autre fois.
Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a un ouvrage que vous aimeriez nous recommander sur la voix ?
J'avais été très intéressée. Je sais que vos auditeurs sont majoritairement des chanteurs et des profs de chant. J'avais été particulièrement intéressée par le livre de Nathalie Henrich, Bernardoni sur la voix chantée.
Vous aviez coécrit, non ?
Oh, j'ai fait un petit chapitre, je crois, je suis même plus sûre.
Il me semble.
C'est possible.
Lors de l'Académie d'été.
J'étais pas moi à cette Académie. Non. J'en ai fait tellement des chapitres d'ouvrages qu'au bout d'un moment, je sais plus quand, pour qui, à quel moment. Il y a un autre livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle La voix invisible et qui avait été écrit par Anne Karp, qui est un auteur anglo-saxon. Qui avait un peu fait le même pari que moi, avant moi d'ailleurs.
De la vulgarisation.
D'aller chercher dans la science des éléments intéressants et pertinents pour la voix. Je m'étais beaucoup inspirée de ce livre-là, même si les thématiques qu'on couvre sont pas du tout les mêmes en fait. Et notamment, il y avait des chapitres qui sont moins mon cœur de compétences et d'intérêts comme la voix intra-utérine ou les choses comme ça, qui étaient abordées par elle de manière... extrêmement intéressante.
Donc vous faites très régulièrement des conférences, vous avez même fait un TEDx. Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui doivent prendre la parole, que ce soit pour des conférences, lors de concerts ?
Je fais ça beaucoup aussi. Je travaille dans cet axe-là d'optimisation de la voix pour la prise de parole en public. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'amuse beaucoup. Je ne vous cache pas que pour le TEDx, j'ai eu la chance d'être moi-même coachée. Et ça a révolutionné beaucoup de choses pour moi, notamment... peut-être moins dans la forme que dans le fond, mais sur la manière de présenter les informations, d'organiser sa pensée, de faire des transitions. Je vous dirais que depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus jamais fait de présentation ou de conférence de la même manière. J'avais été coachée par une femme formidable qui s'appelle Marina Perret, à qui je rends hommage à cet instant. Peut-être qu'elle aura l'occasion d'écouter ce podcast.
Je mettrai les liens en barre d'infos des personnes que vous citez.
Voilà, donc... Il y a beaucoup de choses. La voix est un des axes qui est important pour la prise de parole en public, mais c'est loin d'être le seul. La présence se joue aussi dans la posture qui, vous allez me dire, influence aussi la voix, on est bien d'accord.
Et la confiance en soi aussi, paraît-il.
Donc la posture, la gestuelle, la manière dont on gère la respiration, et puis beaucoup cette histoire toujours de prosodie et d'intonation. Il y a un défaut qui est très récurrent chez les orateurs anxieux, qui sont pas tellement sûrs d'eux et qui manquent un peu de confiance, en particulier quand ils utilisent PowerPoint. C'est d'utiliser une intonation qui est très stéréotypée, avec comme ça, comme quand on fait une liste. Alors quand on fait une liste, on parle des choses comme ça, et puis systématiquement, à la fin de notre phrase, on a la voix qui monte dans l'aigu. Une intonation qui est très stéréotypée, bon, déjà c'est un peu ennuyeux, mais aussi il faut se rappeler que dans la langue française, pas que dans la langue française d'ailleurs, les phrases qui finissent en l'air sont toujours des interrogations. Il n'y a aucune raison qu'une affirmation finisse en l'air. Donc finalement, si quelqu'un vous donne une information en finissant un peu comme ça, bah, il vous donne l'impression qu'il n'est pas sûr de lui, parce qu'il vous donne l'impression qu'il vous demande confirmation de ce qu'il dit en mettant un signal vocal d'interrogation à la fin de sa phrase. Donc le travail sur la prosodie, sur l'intonation est tout à fait fascinant et donne des résultats qui sont très intéressants dans ce domaine-là. Et puis, bien sûr, en amont, le travail sur la gestion du stress, qui est souvent ce qui impacte le plus les orateurs dans la prise de parole en public.
Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous?
Pour moi, ce qui a fonctionné le mieux, c'est le travail. C'est-à-dire que plus je travaille, plus je suis rigoureusement certaine de tout ce que j'ai à dire, plus je peux laisser tomber le fond pour me concentrer sur la forme et donc avoir quelque chose de plus vivant, au final, de plus agréable à écouter, etc. Donc, il faut pas négliger le temps de préparation d'une conférence ou d'une réunion. Hein. Très souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah oui, bon, enfin, je sais ce que je dois dire, mais je suis tellement stressée. » Ben, commence par bien travailler sur ton fond. Après, tu pourras te libérer du fond pour travailler sur la forme. C'est déjà une première chose. La deuxième chose qui marche bien, qui, moi, m'a beaucoup aidée, pas nécessairement dans le cadre de prise de parole ou de conférence, mais dans ma vie en général, je suis quelqu'un d'assez stressée, surmenée, et puis je suis assez traqueuse en vérité aussi. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la cohérence cardiaque. Mm. Et donc vous connaissez probablement
oui.
cette...
Moi, ça m'a énormément aidée avant les concerts. Et c'est quelque chose que je vais faire aussi à certains de mes élèves.
Et puis ce qui est drôle, c'est que c'est toujours la même chose. On a l'impression que le stress, c'est une émotion. Oui, mais n'empêche que, il y a des résultantes physiques. Mm-mm. Et donc, comme on ne peut pas agir directement sur nos battements cardiaques. On peut pas décider qu'on va ralentir nos battements cardiaques. Par contre, nos battements cardiaques sont totalement corrélés à la manière dont on gère notre respiration. Mmh. Donc, on ralentit notre respiration, on la maîtrise, on la rallonge, et les battements cardiaques vont suivre. Mmh. C'est fascinant. Le corps humain, c'est un seul morceau, en fait.
Oui.
Et tout fonctionne par rapport aux autres organes qui sont utilisés pour la même fonction.
Enfin, moi, je sais que sur moi, le souffle, c'est ce qui fonctionne le mieux, hein, sur le trac. Et comme je suis quelqu'un aussi d'assez stressé, j'essaye de faire la cohérence cardiaque au quotidien, mais j'en ai fait déjà deux fois depuis ce matin. C'est quelque chose que j'utilise pour me faire ralentir et me poser un petit peu.
Et c'est un fait scientifique. Mm. C'est pas juste quelque chose comme ça, une petite recette de cuisine qui dit ah, « vous allez vous détendre ». Non, c'est un fait scientifique. Si vous faites ça, ça a effectivement cet effet-là. Mm.
Et donc, qu'est-ce que vous a fait travailler votre coach? Est-ce que vous vous souvenez d'axes de travail que vous aimeriez nous partager?
Quand on avait travaillé ensemble, on avait travaillé beaucoup sur le fond, sur la manière dont on va organiser notre discours pour raconter une histoire. En fait, le TEDx, c'est ça, c'est du stand-up, en fait. D'une certaine manière, c'est du stand-up pas drôle, mais c'est du stand-up quand même. Et donc, on avait travaillé sur l'écriture du texte. Moi qui avais l'habitude d'improviser tout le temps, c'était... Alors, je vous disais tout à l'heure, travailler m'aide beaucoup à gérer mon stress. Donc, quand je vous dis que j'improvisais tout le temps, j'avais toujours une trame assez précise. Mais là, c'était écrit...
Oui, c'était pas du par cœur.
Exactement. Là, c'est écrit à la virgule près. Et de fait, un spectacle de stand-up, ça nous paraît extrêmement spontané et même quelquefois, le comédien interpelle quelqu'un dans la salle. Mais c'est marrant parce que j'en avais parlé avec un comédien stand-up un jour qui interpellait quelqu'un qui avait un manteau de fourrure et qui me disait « Oui, mais enfin, tu sais... » Au mois de décembre, il y a toujours au moins une personne qui a un manteau de fourrure et que je vais pouvoir interpeller pour les besoins de mon spectacle. Donc, on avait travaillé beaucoup sur l'écriture, sur l'idée de la phrase d'accroche pour commencer, quelque chose qui va attirer l'attention, sur comment laisser une phrase de temps en temps en suspens pour attiser l'envie des gens de savoir la suite. Voilà, c'est plein de conseils. Je ne saurais pas vous retranscrire là maintenant, mais ça avait changé beaucoup de choses pour moi. Et notamment, j'utilise beaucoup moins de diapositives et d'illustrations maintenant.
Et combien de temps vous prend en général, bon, j'imagine que ça va de plus en plus vite, mais combien de temps est-ce que vous consacrez à la préparation d'une ou de plusieurs conférences ?
Ce qui me concerne, c'est totalement déraisonnable et déconnecté de la réalité. Je me souviens de, il y a quelques années, je devais faire 15 minutes de présentation dans une réunion qui n'était pas tellement importante en plus sur mon travail. Et j'avais fait, je vais travailler dessus pendant 30 heures, je crois, pour préparer mes slides, mon machin. À un moment donné, il faut quand même réfléchir en termes de rentabilité et savoir adapter la quantité de travail à l'importance de la chose. Je crois que vous êtes pareil. En tout cas, je vois que votre souci du détail me fait dire que vous devez être comme moi. La forme a beaucoup d'importance pour moi. Je crois que quand on... Je sais pas, tout compte, quoi. Ce qu'on dit, comment on le dit, comment on est habillé pour le dire, comment on a illustré notre propos. Et donc, je vous dirais que c'est totalement déraisonnable. Mais dans les cours de pédagogie, ce qu'on nous dit, c'est qu'a priori, une heure de cours est censée être 2 heures de préparation.
Vos conférences sont aussi très esthétiques.
C'est très important pour moi. J'aime beaucoup passer du temps là-dessus et voilà, et j'ai du mal à faire 2 fois la même conférence d'ailleurs pour cette raison-là, parce que la fois d'après, je suis plus du tout dans l'humeur d'avoir cette illustration-là. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'une autre esthétique, d'autre chose. Voilà, donc j'y passe un temps déraisonnable, mais c'est de ma faute, j'aime bien ça. Monsieur Giovanni me disait un jour, mais c'est ma faute si vous travaillez lentement. Je dis, ben non, effectivement.
Est-ce que vous auriez un conseil pour essayer de gommer, d'estomper tout ce qui est tic de langage ?
Il faut y penser. Il y a un certain nombre de choses qui sont un peu frustrantes dans le travail qu'on peut faire avec la voix. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai de temps en temps des gens qui me disent « Ah oui, mais je parle trop vite. » De fait, je peux constater qu'ils parlent trop vite. Il n'existe pas d'exercice pour vous aider à parler moins vite. Si vous voulez parler moins vite, parlez moins vite. Voilà. Gérer le souffle, faire des segments de phrases plus courts, mais malgré tout, vous avez des gens qui vont quand même, de manière très hachée, continuer à avoir un débit extrêmement rapide sur des segments qui seront plus détachés et qui seront pas beaucoup plus productifs. Donc, si vous voulez parler plus lentement, parlez moins vite. Moi, j'ai beaucoup travaillé, en fait, mon terrain de jeu pour explorer ma propre voix et mes techniques de présentation. C'est mes cours. J'ai la chance de faire cours aux étudiants. Je maîtrise le contenu depuis plusieurs années, même si je le réactualise. Je sais ça par cœur, c'est pas difficile pour moi. Et donc, ça me permet de me concentrer sur un certain nombre de choses. Et quand j'ai débuté, je parlais plus vite. Je laissais ma voix partir dans les aigus un peu avec le stress. On a souvent ça un peu, hein, quelquefois, parce que le stress génère des tensions musculaires. Les tensions musculaires vont tendre davantage les cordes vocales. Si les cordes vocales sont plus tendues, la voix est plus aiguë, surtout chez les femmes. Je ne sais plus quel était le point de départ de votre question, mais...
C'était tout ce qui était tic de langage.
Ah voilà, pour les tics de langage, c'est un peu la même chose. En fait, il faut le faire en conscience. En vérité, des tics de langage, on en a tous, tout le temps. Très souvent, on n'est même pas capable de les identifier.
Si on ne s'écoute pas, non.
Si on ne s'écoute pas... Stéphanie Perrière m'a dit il n'y a pas longtemps « Ah tiens, tu dis tout le temps ça ». J'avais l'impression que c'était la première fois de ma vie que je prononçais ce mot. Et en fait, non. Maintenant que je le sais, je me rends compte que je le prononce tout le temps. Et maintenant que je le sais, je le fais plus. Mais voilà, il y a un travail d'identification à faire. C'est pour ça que travailler en feedback, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup et que je fais en routine un peu tout le temps. Je filme les séances. Alors des fois, j'ai des films qui servent à rien et que je mets à la corbeille aussitôt que la séance est terminée. Et puis des fois, ça nous fait des documents de travail sur lesquels on peut revenir et qu'on peut travailler. Alors, je poursuis un peu sur l'idée parce que ça me fait penser, c'est une thématique un peu connexe. Je travaille aussi de temps en temps. Actuellement, je travaille avec un jeune comédien qui veut gommer son accent marseillais.
J'ai beaucoup cette demande. Voilà. J'avais fait un film avec ou sans accent.
Et effectivement, quand on se rend compte que plus belle la vie, il n'y a pas un seul comédien qui a l'accent marseillais, on se dit, bon, effectivement, ça doit être un enjeu pour eux. Et en vérité, je crois, en fait, je suis assez convaincue qu'on peut très difficilement s'enlever quelque chose. Par contre, on peut prendre quelque chose de nouveau. Et je crois que dans le travail sur l'accent, c'est moins l'idée de neutraliser que de prendre notre accent. Et c'est-à-dire d'aller identifier dans un accent plus parisien quels sont les éléments qu'on veut adopter. Voilà. Parce qu'enlever des choses sur... Par exemple, si vous dites... À votre élève, il faut dénasaliser votre A.
Alors moi, souvent, c'est des chanteurs. Ils ont davantage de conscience technique. C'est des chanteurs qui, quand ils chantent en français, lorsqu'ils ne sont pas à Marseille, on leur fait un petit peu un reproche sur leur accent. Donc, quand ils sont à Marseille, ils le gardent. Et quand c'est en dehors, donc ils ont davantage conscience de la technique, tandis qu'effectivement, si c'est des comédiens ou juste des journalistes, c'est différent.
Oui. Et donc, on va essayer d'aller chercher à adopter quelque chose de nouveau, pas à enlever des choses. Et je crois que c'est ça la clé, en fait. Mais c'est difficile. Et ça encore, ça demande un apprentissage. C'est pas tant l'apprentissage qui est long, c'est la répétition, en fait. Parce que pour devenir à l'aise avec cette nouvelle façon de fonctionner, il faut le faire tout le temps.
Oui, moi, ce que je fais, c'est que je leur donne une méthodologie. On se voit quelques fois. Et après, je leur demande de travailler avec des personnes de leur entourage. Alors là, surtout quand c'est des accents étrangers. Je leur demande de travailler après, dans cette optique-là, avec des collègues ou des proches français.
Oui, c'est ça. Et s'enregistrer, se réécouter, vérifier que ça correspond, recommencer, c'est fastidieux.
Et vous aviez fait, dans l'une de vos conférences, une parallèle entre l'accent de Linda Lemay et l'accent de Céline Dion.
Oui, parce que finalement, Céline Dion, quand elle chante, on ne perçoit pas son accent canadien, qu'elle a quand même cogné, faut le dire, quand elle parle, quoique pas toujours. Quand elle est interviewée en France, il est peut-être quelquefois moins fort que quand elle est interviewée au Canada. Mais
je sens qu'elle a un accent assez fort, mais je ne pourrais pas dire...
Mais quand elle chante, on l'entend pas. Alors que Linda Lemay, on perçoit son accent même quand elle chante. Et ça, en fait, c'est essentiellement dû au style de chant. Céline Dion, elle est vraiment dans un chant de type belt, où l'accent est vraiment mis sur la mélodie, la puissance, les cordes épaisses, etc. Alors que Linda Lemay, elle est dans un type de chant qui est plus proche du speech, parce que ce qui compte le plus pour elle, c'est que les mots qu'elle a écrits, que son texte soit mis en valeur. Je dis pas que les mélodies ne sont pas subtiles et quelquefois même assez sophistiquées, mais c'est avant tout le texte. Et de la même manière que d'autres chanteurs à accent, comme qui pourrait me venir Georges Brassens. Georges Brassens a des mélodies extrêmement complexes. C'est difficile à chanter Georges Brassens. Et pour autant, il ne néglige jamais l'articulation du texte de manière à ce que vraiment le sens soit mis au premier plan. Donc finalement, c'est cette différence de posture initiale de se dire sur quoi je mets l'accent qui fait qu'on va le percevoir plus fort chez un individu que chez un autre.
Très intéressant. C'est vrai que si on prend les lignes de chant et les hauteurs, ce ne sont pas les mêmes pour Linda Lemay que pour Céline Dion. Où pouvons-nous vous retrouver sur Internet pour suivre votre actualité, vous contacter?
Alors, sur Internet, j'ai une page Facebook qui porte mon nom et qui est une page pro, en fait. Donc, voilà, vous y verrez pas mes photos de vacances, mais vous verrez de temps en temps des illustrations, des choses qui m'ont intriguée par rapport à la voix. Mais plutôt, je dirais que... Donc, il y a ce site infovoix.com sur lequel il y a beaucoup d'informations pour la voix. Il y a la page Facebook 3 notes et 8 étapes qui est l'association de formation qu'on propose aux orthophonistes où on met beaucoup de choses aussi qui concernent la voix. Et puis, il y a notre chaîne YouTube aussi, 3 notes et 8 étapes, qui contient alors là un certain nombre de choses qui nous amusent, on doit dire ça comme ça, et puis d'autres choses avec plus de contenu, et notamment des exercices de voix, des petits tutos pour arriver à faire certains exercices un peu compliqués, et là il y a, je crois, pas mal de choses à défricher là-dedans.
Oui, il y a aussi votre site internet ?
Oui, alors mon site internet, je vous avouerai que je l'ai pas mis à jour depuis 2016, je crois, donc il y a peut-être 2-3 petites choses à aller gratter là, mais j'ai un peu désinvesti la chose.
Très bien. Alors, une question que je pose toujours pour terminer le podcast. Quel chanteur, chanteuse, coach vocal ou chercheur, collègue aimeriez-vous écouter dans le podcast?
Je ne vais pas vous parler de science, alors je vais vous parler de musique puisque vous m'offrez cette opportunité-là. J'ai découvert finalement il y a peu de temps, mais j'ai rattrapé mon retard et j'ai dévoré tous les albums de Ben Mazué.
Alors, je suis pour parler avec son agent depuis un an et demi, mais il est très pris.
Mais je crois qu'il est très sympathique et j'espère qu'il vous dira oui un jour parce que je me régalerai de voir cette interview-là.
Ouais, j'aime beaucoup ses chansons et puis ses textes.
Tout, j'aime tout, moi. J'aime les textes, j'aime la voix, j'aime l'articulation, j'aime la technique, j'aime tout dans sa voix. Je trouve qu'il a beaucoup de sobriété, de simplicité, en même temps tellement de profondeur. Enfin, c'est un artiste que j'aime beaucoup.
Oui, j'ai vu aujourd'hui qu'il sort une correspondance avec Grand Corps Malade.
Voilà. J'ai vu ça aussi, je pense qu'on a les mêmes sources.
Ben, merci Johanna, j'étais ravie d'échanger avec vous.
Merci à vous, moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Je reviendrai volontiers à l'occasion.
Avec plaisir pour parler d'un prochain livre.
Mais pourquoi pas, volontiers.
À bientôt.
J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolaine ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode.